Le marché immobilier. Pendant des années, on a eu l'impression que c'était une forteresse totalement imprenable, surtout dans les grandes villes.
Ah, ça oui, surtout dans les métropoles très attractives.
Exactement. Il y a eu cette période pas si lointaine finalement où le simple fait de lire les gros titres sur l'immobilier, ça suffisait à donner des sueurs froides à n'importe quel aspirant acheteur.
Des taux qui grimpaient en flèche, les banques qui fermaient carrément les vannes.
Ouais. Et les prix qui refusaient de baisser, bref, un vrai parcours du combattant.
C'est le mot.
Mais voici une nouvelle qui risque de changer la donne. En 2026, acheter son premier logement, et ce même dans une ville historiquement très prisée comme Bordeaux, c'est plus du tout un mirage.
La dynamique a changé, oui, de manière assez spectaculaire.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre décryptage se concentre sur une véritable mine d'or d'informations. On a épluché une analyse complète, ultra récente, qui est pensée comme un véritable manuel de stratégie, un guide dédié aux primo-accédants bordelais pour cette année 2026.
Et c'est un document très riche.
Très riche, oui. La mission de notre discussion aujourd'hui, elle est simple. Il s'agit d'extraire la substantifique moelle de ces données, de décrypter les tout nouveaux dispositifs financiers qui viennent d'entrer en vigueur, et surtout de dresser une carte réaliste des quartiers accessibles.
Sans noyer personne sous un jargon bancaire incompréhensible, bien sûr.
Exactement. L'idée, c'est vraiment d'offrir un raccourci vers l'essentiel pour saisir les opportunités du moment. Bon, décortiquons tout ça. Pour bien démarrer, il faut comprendre le terrain sur lequel on s'aventure. Quel est le climat exact de ce marché immobilier bordelais en ce début d'année 2026?
Le contexte global, c'est effectivement la toute première clé de compréhension. Si l'on observe la situation macroéconomique actuelle, on constate que nous sommes face à un marché bordelais qui s'est enfin stabilisé à la fin de l'année 2025.
Donc, le calme après la tempête, en quelque sorte.
C'est ça. Les professionnels parlent désormais d'un marché mature.
Mature. Ça veut dire quoi concrètement sur le terrain?
Ça veut dire qu'on n'attend pas de correction brutale à la baisse ni d'effondrement des prix, mais plutôt une évolution très modérée tout au long de 2026. Et cette stabilité, elle est cruciale car elle redonne de la visibilité à long terme.
Et la visibilité, c'est un peu le carburant de la confiance quand on s'apprête à signer un crédit sur 25 ans.
Tout à fait. Mais le véritable point d'ancrage de toute cette dynamique de reprise, c'est ce fameux statut de primo-accédant. C'est un terme omniprésent dans la source, mais dont la définition technique est souvent mal comprise.
C'est vrai qu'on a tendance à penser que primo-accédant, ça veut dire le tout premier achat de sa vie et puis point barre. C'est pas aussi strict en fait, hein.
Pas du tout. Et c'est là que réside une opportunité majeure. Être primo-accédant sur le plan légal et fiscal, ça ne signifie pas que l'on n'a jamais été propriétaire de toute son existence.
Ah bon?
Non, cela signifie très précisément que l'on n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années qui précèdent le nouvel achat. C'est une nuance fondamentale.
Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui a vendu sa maison il y a, mettons, 3 ans, pour revenir à la location, suite à une mutation par exemple, il redevient primo-accédant.
Officiellement, oui. Les compteurs sont remis à zéro. Et ce statut, c'est la clé d'or. C'est le sésame absolument obligatoire qui déverrouille l'accès à une multitude d'aides étatiques et locales.
C'est fascinant de voir qu'une simple fenêtre de 2 ans remet tout à plat. Et justement, la première porte qui s'ouvre en grand, cette année, c'est celle du portefeuille, ou plutôt de la capacité d'emprunt. On entend beaucoup dire que l'air est plus respirable pour les acheteurs en 2026. Qu'est-ce que les chiffres du guide nous disent réellement?
Les chiffres sont particulièrement éloquents. Le moteur principal de ce regain d'optimisme, c'est la baisse significative et durable des taux d'emprunt.
On en est où exactement?
En ce début d'année 2026, la moyenne s'établit autour de 3,35% sur une durée de 20 ans.
3,35%, c'est quand même une vraie bouffée d'oxygène par rapport au sommet de la crise de l'inflation.
Absolument. Cette baisse des taux a un impact direct et mécanique sur les dossiers. Le pouvoir d'achat immobilier global a augmenté d'environ 10% depuis 2023.
Alors, 10% dit comme ça reste un chiffre un peu abstrait. Mais l'analyse propose une traduction brillante de ce pourcentage.
Oui, l'exemple de la surface supplémentaire.
Exactement. Concrètement, cette augmentation de 10% équivaut à gagner 4 mètres carrés supplémentaires pour l'achat d'une maison standard de 60 mètres carrés. Et 4 mètres carrés en pleine ville, c'est pas un détail, hein.
Ah non, c'est énorme.
C'est l'équivalent d'obtenir, sans débourser un centime de plus sur les mensualités par rapport à il y a 3 ans, une pièce en plus. Un bureau dédié pour le télétravail ou un grand dressing. C'est un changement de style de vie tangible.
Absolument. Ces mètres carrés supplémentaires illustrent bien comment une politique monétaire finit par se matérialiser dans le salon des gens. Pour ancrer ça encore davantage dans la réalité, l'étude prend un cas pratique très représentatif.
Le fameux couple avec des revenus médians.
Voilà. Imaginons un couple qui gagne 50 000 euros net annuels en cumulé. S'ils ont réussi à mettre de côté 15 000 euros d'abord personnel, leur capacité d'emprunt avec ses taux à 3,35% leur permet de cibler un budget total qui oscille entre 165 000 et 195 000 euros.
D'accord. Donc avec presque 200 000 euros en poche, on a l'impression d'être les rois du pétrole. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Face à la réalité du marché bordelais, est-ce que ça achète vraiment un palais ? Que peut-on s'offrir avec cette somme aujourd'hui ?
C'est là que la géographie entre en collision avec les mathématiques. Tout dépend des compromis que l'on est prêt à faire.
C'est-à-dire ?
Si ce couple s'entête à vouloir vivre dans Bordeaux intramuros, dans l'hypercentre historique, où la moyenne culmine encore à plus de 4 550 euros le mètre carré, la réalité est rude.
Ça coince au niveau du budget.
Clairement. Ce budget permet tout juste d'acquérir un studio ou, avec un peu de chance, un petit deux pièces nécessitant des gros travaux. On privilégie l'adresse au détriment de l'espace.
Et l'alternative, c'est quoi ?
C'est d'accepter de faire quelques kilomètres de plus, de traverser la Garonne pour s'installer sur la rive droite. Là, ce même budget de 195 000 euros se métamorphose.
Ça donne quoi de l'autre côté du pont ?
Il permet d'accéder à un véritable appartement de 3 pièces, potentiellement même avec un extérieur. Le pouvoir d'achat n'est donc pas qu'une question de taux d'intérêt, c'est aussi un arbitrage territorial.
Le grand écart entre un petit studio sous les toits et un vrai T3 familial juste en traversant un pont. C'est saisissant. Mais avant de faire ses cartons, il y a souvent un piège dans lequel tombent beaucoup de novices, on se focalise sur le prix affiché en vitrine et on oublie qu'un achat immobilier, c'est aussi une avalanche de frais annexes.
Oui, des frais périphériques cruciaux qu'il faut impérativement budgétiser en amont. C'est la base de toute éducation financière saine, selon le guide.
Il ne faut jamais calculer son enveloppe globale uniquement sur le prix du bien.
Jamais. L'écosystème comprend en premier lieu les fameux frais de notaire. Dans l'immobilier ancien, ils représentent environ 8% du prix d'achat. C'est une somme massive à sortir dès la signature.
Sans oublier l'apport minimum.
Exactement. Même si techniquement des montages sans apport existent à la marge, la norme bancaire actuelle exige généralement entre 5 et 10% d'apport minimum, justement pour couvrir ces frais de notaire.
À cela s'ajoutent les frais de dossier de la banque et une dépense souvent sous-estimée, l'assurance emprunteur.
Une assurance indispensable qui protège en cas de pépin santé et qui peut représenter entre 0,5 et 1,5% du montant total emprunté. Si on omet d'intégrer toutes ces variables, le dossier risque simplement d'être retoqué par le banquier.
Et qu'on a mis de côté de quoi payer le notaire, il est grand temps de se pencher sur l'arsenal d'aides disponibles pour alléger la facture.
Et le choix est vaste cette année.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les données mettent un coup de projecteur énorme sur le prêt à taux zéro, le fameux PTZ. C'est un peu le Graal du primo-accédant. Mais l'année 2026 marque un tournant radical pour ce dispositif dans la région de Bordeaux.
Un tournant tout à fait radical, oui. Les pouvoirs publics ont procédé à des ajustements majeurs. D'abord, ils ont assoupli les critères d'entrée.
Sur les revenus, c'est ça, hein ?
Oui, ces plafonds de revenus ont été revus à la hausse de 8 à 13% spécifiquement pour ce qu'on appelle la zone A.
Juste pour être sûr que tout le monde suive, la zone A, concrètement, qu'est-ce que ça représente dans le jargon IMO ?
L'État a découpé le territoire en zones selon la tension du marché immobilier. La zone A correspond aux agglomérations où la demande est infiniment supérieure à l'offre. Bordeaux et sa métropole proche sont classées en zone A.
Donc l'augmentation des plafonds dans cette zone, c'est une mesure forte ?
Très forte. Cela signifie que des milliers de foyers qui gagnaient juste un tout petit peu trop pour avoir droit au PTZ l'an dernier redeviennent miraculeusement éligibles en 2026.
Un effet d'aubaine massif. Mais l'autre évolution frappante, ce sont les montants accordés, non ?
Les enveloppes ont littéralement explosé. Avant cette réforme, le plafond maximum naviguait entre 79 000 euros et 156 000 euros. Aujourd'hui, on démarre à 99 000 euros et on peut grimper jusqu'à la somme impressionnante de 195 000 euros.
195 000 euros à taux zéro. C'est un levier d'une puissance inouïe.
Attention cependant à une règle immuable soulignée par l'analyse. Ce PTZ ne financera jamais 100% de l'achat. Il est plafonné à 40 ou 50% de l'opération et vient toujours en complément d'un prêt bancaire classique.
C'est logique. Mais il y a aussi une nouveauté très spécifique concernant l'utilisation de ce PTZ en 2026. Il s'ouvre à un tout nouveau type de marché foncier.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'extension de ce prêt à taux zéro à un dispositif appelé le bail réel solidaire, ou BRS.
Le BRS, il faut absolument qu'on éclaire ce concept, car ça ressemble encore à un acronyme un peu barbare.
Le principe du BRS est l'une des innovations les plus intelligentes de ces dernières décennies. L'idée est de dissocier complètement la propriété des murs de la propriété du terrain.
Donc on n'achète pas le terrain.
Exactement. On devient pleinement propriétaire de son appartement, mais le terrain reste la propriété d'un organisme public solidaire. On verse alors une petite redevance mensuelle pour l'occupation de ce terrain.
Et j'imagine que l'impact sur le prix final est colossal.
En enlevant le coût du foncier, le prix d'achat chute de 30 à 40% par rapport au marché classique.
C'est énorme.
Et en 2026, le fait de pouvoir utiliser le PTZ ultra boosté pour financer un achat en BRS crée une synergie redoutable. C'est l'addition d'un prix de vente cassé à la base avec un crédit gratuit massif.
Acheter les murs, mais louer le sol, c'est brillant. Et au-delà des mesures nationales, les municipalités mettent aussi la main à la poche. Il y a des dispositifs locaux à ne pas rater.
Comme le prêt de Bordeaux Métropole.
Exactement. Bordeaux Métropole propose un prêt à 0% qui peut aller jusqu'à 20 000 euros, remboursable sur 14 ans. Et l'avantage énorme, c'est qu'il s'additionne au PTZ de l'ECA. Mais il y a un autre mécanisme décrit comme un filet de sécurité ultime dans notre document, le PSLA, la location-accession. Comment ça marche ?
Le PSLA est un mécanisme extrêmement protecteur. Pensez pour ceux qui ont la phobie de s'endetter sur 25 ans et de faire le mauvais choix. Le concept repose sur une période de test.
On teste son futur chez soi ?
C'est l'idée. Dans un premier temps, le futur acquéreur entre dans le logement neuf en tant que locataire. Il paye une redevance mensuelle qui comprend une part de loyer et une part d'épargne. Cela permet de vérifier en conditions réelles si l'effort financier est supportable.
Sans le stress de l'endettement définitif ? Et ensuite ?
Si après un ou deux ans, la personne décide de rester, elle lève l'option d'achat. Et là, les avantages s'accumulent. Chaque année passée en location donne droit à une décote de 1% sur le prix de vente.
Magnifique.
De plus, l'achat se fait avec une TVA réduite à 5,5% au lieu des 1% habituels. Et s'accompagne d'une exonération pure et simple de la taxe foncière pendant 15 ans.
15 ans sans taxe foncière. C'est la définition même de la tranquillité d'esprit. Par contre, il faut faire attention car dans ce maquis des aides, on peut facilement se perdre. Ou pire, se faire berner. Il y a une alerte majeure dans la source concernant un dispositif fantôme.
La fameuse fake news immobilière.
Oui, on voit fleurir partout des articles mentionnant un fameux passeport premier logement. Les blogs en parlent, certains conseillers mal informés le suggèrent. Quel est le problème avec ce passeport premier logement ?
Le problème est simple, il n'existe plus. C'est une aide qui a bel et bien existé, mais qui est aujourd'hui totalement obsolète. Pourtant, elle continue de hanter les algorithmes des moteurs de recherche.
C'est un piège redoutable pour un plan de financement.
Intégrer une aide de 15 000 euros qui a disparu, c'est aller droit dans le mur. La leçon à retenir, c'est qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce qui se dit sur des blogs non officiels. L'esprit critique est votre meilleur apport personnel.
Le message est clair. Fiez-vous aux institutions. Bien, maintenant que l'on sait comment financer tout ça, il est temps de sortir la carte de la ville. Où faut-il chercher ? L'analyse déconstruit la géographie bordelaise. Commençons par ce qui est décrit comme le choix budget par excellence, la rive droite.
Traverser ce pont, c'est un peu remonter le temps au niveau des prix.
C'est une excellente métaphore.
La rive droite est historiquement plus abordable, et c'est là que se dirigent massivement les primo-accédants pour maximiser l'espace. Le guide met en lumière un trio de communes incontournables.
Lequel ?
Il y a d'abord Sénon, qui s'impose comme la porte d'entrée la plus accessible financièrement, avec une moyenne très attractive de 2888 euros le mètre carré. Ensuite, il y a Lormont, souvent considéré comme le choix le plus stratégique, car on y trouve des prix contenus entre 2630 et 3281 euros, tout en restant à peine à 5 km du centre.
Et le troisième profil ?
Florac, légèrement plus cher, mais souvent plébiscité pour son équilibre. Un bon compromis entre la verdure, les commodités et un budget qui reste maîtrisé.
Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle traverse à nouveau la Garonne pour explorer la rive gauche. Et là, c'est le grand écart. On parle de Pessac à 4098 euros le mètre carré, Mérignac ou encore Talence. Alors, si on s'adresse à des primo-accédants avec des budgets limités, pourquoi leur conseiller la rive la plus chère ? Ça semble totalement contre-intuitif.
C'est justement là qu'intervient la véritable stratégie financière, une sorte de jeu d'échecs à l'échelle d'une métropole. Pourquoi viser la rive gauche beaucoup plus onéreuse ?
Parce que c'est sur ce territoire précis que se concentre la majorité de la construction de logements neufs.
Et le rapport avec le 9 ?
C'est le fameux PTZ.
Exactement. Les nouvelles règles du PTZ 2026 flèchent ce prêt d'État massif en priorité absolue vers l'immobilier neuf ou l'achat sur plan dans ces zones tendues. L'ancien sans gros travaux y est quasiment exclu.
C'est donc un calcul de compensation.
Appartement neuf à Meringa qui est bien plus élevé qu'un appartement des années 80 à ce nom, c'est certain. Mais ce surcoût initial est massivement amorti par l'injection de ces 195 000 euros à 0%. On accepte de payer les murs plus chers pour faire s'effondrer le coût global du crédit.
C'est stupéfiant de voir à quel point les aides modèlent le marché. Mais j'imagine que jongler entre les zones, le neuf, l'ancien, le PTZ, l'apport, ça ne s'improvise pas un dimanche après-midi.
Loin de là. L'ingénierie financière derrière ces montages est complexe. L'analyse souligne qu'il faut compter entre 4 et 6 semaines au strict minimum pour consolider un tel dossier.
D'où le rôle crucial du courtier en crédit.
Des cabinets comme Aura Finance, cités dans le document, sont vitaux. Surtout pour les profils qu'une banque jugerait atypiques de prime abord. Des indépendants avec des revenus fluctuants ou des jeunes actifs sans grosse épargne de précaution.
Le courtier sait articuler les aides pour rassurer la banque. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on devait prendre un peu de hauteur sur cette montagne d'informations pour l'année 2026, quelle est la ligne directrice?
La synthèse est claire. 2026 n'est pas une simple année de transition. C'est une fenêtre de tir stratégique majeure. Nous avons un alignement des planètes rarissime. La fin de la frénésie des prix, le retour à des taux d'emprunt raisonnables et un arsenal d'aides publiques qui n'a jamais été aussi généreux.
L'approche doit donc être purement méthodique.
La rive gauche pour le neuf. Et se faire accompagner.
C'est un mode d'emploi extrêmement clair. L'immobilier devient beaucoup moins angoissant quand on comprend les règles du jeu. Mais avant de se quitter, en repensant à cette stratégie du neuf et du bail réel solidaire, cela soulève une réflexion assez profonde sur notre rapport à l'habitat.
C'est l'évolution silencieuse, mais radicale, de la notion même de choix immobilier. Historiquement, on achetait une maison pour son cachet, pour le quartier ou pour un coup de cœur. Mais aujourd'hui, face à la complexité économique, nous assistons à une véritable financiarisation du parcours résidentiel.
C'est vrai que la dimension mathématique a pris le dessus.
Et si les futurs acheteurs commencent à se tourner massivement vers des modèles comme le BRS, où l'on est propriétaire des murs mais pas du terrain, cela ne va-t-il pas complètement redéfinir la notion millénaire de propriété foncière?
C'est une question fascinante.
Est-ce la fin du patrimoine foncier classique pour les classes moyennes ou au contraire l'invention d'un nouveau modèle de richesse partagée? C'est une question laissant suspens pour nourrir la curiosité de chacun bien après la fin de cette exploration.
Une vraie réflexion philosophique et économique pour clôturer cette analyse. Un grand merci d'avoir décrypté ce paysage immobilier 2026 avec une telle précision. Et pour tous ceux qui se lancent dans l'aventure, il ne reste plus qu'à souhaiter de très fructueuses recherches.